Les As de la Copro, l'émission qui rebat les cartes de la copropriété. Présentée par Gilles Frémont, président de l'ANGC, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété, sur Radio Immo.
Bonjour à tous, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle émission, les As de la copropriété. L'été est passé, j'espère que vous êtes tous bien reposés. Et je retrouve les experts copro, les As de la copro. Sabrina Meghetti, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Sabrina, donc vous êtes responsable d'agence chez Quadral.
C'est ça.
Toujours. Mathieu Mialaret, bonjour Mathieu.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Toujours directeur métier ADB et copropriété syndic chez Foncia. Pierre-Edouard, bonjour.
Bonjour Gilles.
Vous allez bien Pierre-Edouard?
Oui, très bien.
Bon, très heureux de vous revoir. Toujours merci. Avocat, docteur en droit, barreau de Paris et de Bordeaux. Et Alexis de Coster, bonjour Alexis.
Bonjour Gilles.
Toujours responsable métier ADB syndic chez Crédit Agricole Services Immobilier. Kassim, eh ben, je vous propose qu'on attaque par la première question, la séquence juridique.
Les As de la Copro, le point juridique.
Alors, point juridique, là, on est vraiment dans le juridique. On va parler de la vente d'une partie commune spéciale. Vente d'une partie commune spéciale. Vente de partie commune, on a l'habitude, un WC, une loge, deux gardiens, le palier du dernier étage. Voilà. Là, c'est une vente de partie commune spéciale. C'est-à-dire que dans le règlement de copropriété, il y a bâtiment A, bâtiment B. Et on vend une partie commune qui est dans le bâtiment B, uniquement. Est-ce que tout le monde doit voter? Est-ce qu'il y a plusieurs votes à faire? Il y a eu une jurisprudence, là, récemment, qui nous éclairait. C'est pour ça qu'on en parle. Et je lance Pierre-Edouard.
Merci, Gilles. Alors, un mot simplement sur ce qu'est une partie commune spéciale. Enfin, ce que sont des parties communes spéciales, c'est important quand même de le définir. Et depuis l'ordonnance de 2019, on a des précisions à l'article 6.2 de la loi du 10 juillet 1965. Et cet article, dans son premier alinéa, nous dit que les parties communes spéciales sont celles affectées à l'usage ou à l'utilité de plusieurs copropriétaires. Donc on comprend qu'il y a une utilité spécifique de ces parties communes. Donc par exemple, le bâtiment A va être utile aux personnes qui vivent, qui ont des lots dans le bâtiment A. Et surtout, l'article 6.2 nous précise, elles sont la propriété indivise de ces derniers. Ça veut dire qu'on a spécialisé la propriété. C'est pas simplement une question d'usage, comme pour un ascenseur, c'est une question véritablement de propriété. C'est un peu, peut-être un barbarisme, mais c'est une sous-indivision. C'est-à-dire qu'une partie de l'immeuble n'appartient que à certains copropriétaires. Donc déjà, ça suppose que ces parties soient bien identifiées comme étant des parties communes spéciales. Ça n'est pas parce qu'on a un bâtiment A et un bâtiment B qu'il y a nécessairement des parties communes spéciales, et il ne faut surtout pas tomber dans ce piège, parce que certains vont un petit peu vite sur la qualification des parties communes spéciales. Donc il faut des parties communes spéciales identifiées avec des tantièmes, des parts de propriété indivise spéciale. Et ce nouveau texte, il est venu entériner finalement une pratique ancienne. Ça fait quelques années, même quelques dizaines d'années qu'on connaît les parties communes spéciales en copropriété. Et ça vient tout simplement du fait qu'on veut de moins en moins de communautés. Mais c'était un impensé en 1965 parce que la loi avait un but communautaire, c'était de partager la propriété d'un immeuble. Or aujourd'hui, on essaie de moins en moins de partager et de plus en plus d'individualiser. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de parties communes spéciales, ce qui a posé beaucoup de questions, d'où ce nouveau texte. Et alors cet article 6.2, là où il est utile, c'est qu'il précise également les modalités de prise de décision pour ce qui est relatif aux parties communes spéciales.
Le vote.
Et pas seulement pour la vente, pour les prises de décision, donc d'entretien, d'amélioration, de cession, etc. L'article 6.2, dans son alinéa 2, nous dit que les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d'une assemblée spéciale, donc celle qui va réunir uniquement les propriétaires concernés, soit au cours de l'assemblée générale de tous les copropriétaires, mais dans ce cas, seuls prennent part au vote les propriétaires à l'usage ou à l'utilité duquel sont affectées ces parties communes, c'est-à-dire ceux qui ont une quote-part de propriété spéciale. Donc on comprend que, pour répondre à la question qui est posée, pour céder une partie commune spéciale, il faut une décision des copropriétaires de ces parties, soit en assemblée spéciale, soit en assemblée générale, avec seulement un vote de ces copropriétaires. S'il y a une cession de cette partie commune spéciale, et la jurisprudence a pu le préciser, le prix de la vente sera répartie uniquement entre ses propriétaires également, parce que ce sont les seuls propriétaires de cette partie, donc ils tirent le bénéfice du fruit de la vente. C'est logique, la Cour de cassation a pu le préciser.
Y compris si c'est la loge du gardien qui profite à tout le monde.
Y compris si c'est la loge du gardien qui est dans les parties communes spéciales, ce qui pose parfois un petit hiatus avec le texte sur la question de l'utilité ou de l'usage à tous. Et ça, c'est peut-être une distorsion, mais sur l'alinéa 1 de l'article 6.2, mais j'entre pas là-dedans parce que ça nous amènerait un petit peu plus loin que notre question. Donc, reste que quand on cède la partie commune spéciale, ça emporte une modification d'un certain nombre de données dans le règlement de copropriété, dont les tantièmes de partie commune générale, les tantièmes de partie commune spéciale, et surtout, parce que ça, ce sont des données qui peuvent être techniques, mais surtout, une modification de la répartition des charges. Or, on sait qu'il faut un vote pour modifier la répartition des charges. Et c'est l'article 26 qui le précise, et on peut se demander d'abord à quelle majorité et quelle assemblée doit le voter. Ces deux questions se posent. Pour l'Assemblée générale, je vais un tout petit peu trop vite, mais pour l'Assemblée, l'article 26 nous dit que c'est l'Assemblée générale. Si c'est l'Assemblée générale, au contraire de l'Assemblée spéciale, ça veut dire que ce sont tous les copropriétaires qui vont voter. Pour la règle de majorité, on peut se référer peut-être à l'article 11 de la loi de 1965, qui nous dit que lorsqu'il y a une vente, eh bien, si cette vente emporte la nécessité de modifier les charges, on va voter la modification des charges à la même majorité que la vente. Le seul problème de ce texte, et là on n'a pas encore de réponse de la jurisprudence, mais le seul problème de ce texte, c'est que l'article 11 vise la décision de céder de l'Assemblée générale, et non pas de l'Assemblée spéciale. Et or là, comme je viens de vous le dire, ceux qui décident, ce sont les copropriétaires des parties communes spéciales. Donc il n'est même pas évident que l'article 11 soit applicable au cas d'espèce, ce qui veut dire que si ça n'est pas applicable, c'est l'unanimité. Et dans ce cas-là, on sera quasiment, pour ceux qui pratiquent la matière, on sera quasiment systématiquement en échec sur la modification des charges post-vente de la partie commune spéciale.
Et donc, ça bloque la vente.
Alors, ça ne bloquerait pas tout à fait la vente, et je ne rentrerai pas dans tout à fait le détail, mais parce qu'on a une jurisprudence de la Cour de cassation, qui est tout à fait contestable à mon sens, mais on n'a pas le temps ici, qui nous dit qu'on peut vendre une partie commune, spéciale ou générale, peu importe, sans que le lot de copropriété ne soit créé. Donc sans que toutes les conséquences de la création du lot et la modification des charges soient actées. Donc la vente, elle pourrait être parfaite, pour autant, on ne pourrait pas l'acter. Ça veut dire qu'on a une impossibilité, finalement, de créer le bien qui rentrera dans le marché juridique. Ce qui est complètement absurde. C'est pour ça que je pense que cette jurisprudence est très mauvaise et qu'il faudrait revenir dessus, au contraire de certaines préconisations qui nous disent qu'il faut l'entériner. Surtout pas. Surtout pas. Mais donc la vente peut être parfaite, mais la modification des charges ne peut pas être imposée, ce qui fait qu'il faudrait recourir au juge. Ce qui est encore une solution extrêmement difficile, extrêmement longue et coûteuse, tant pour le syndicat des copropriétaires que pour le bénéficiaire de la cession. Et donc là, il y a certainement une amélioration à faire du texte, il y a une réflexion à mener pour trouver une nouvelle solution. Mais pour répondre clairement à la question, est-ce que il peut y avoir un obstacle à la vente des parties communes spéciales? Oui, cet obstacle consiste en la modification des charges, parce qu'elle relève de l'Assemblée générale des copropriétaires et qu'elle peut être votée à l'unanimité si on n'applique pas l'article 11 du texte de la loi de 1965, ce qui est une forte probabilité.
Alors effectivement, Alexis, donc pour résumer, cette jurisprudence qui est tombée là en 2024 nous dit qu'il y a un vote à la majorité unique en assemblée spéciale pour la vente, étape 1. Résolution 1, et étape 2, résolution 2, l'approbation du modificatif du géomètre.
Par l'ensemble des copropriétaires.
Cette fois-ci, par l'ensemble des copropriétaires. Et donc, ce deuxième vote, s'il est négatif,
ça fait barrage
à la résolution première.
Tout à fait. Donc là, on va être très vite sur le terrain potentiellement de l'abus de majorité. Et donc forcément d'aller auprès du juge pour faire avaliser la décision, parce que comme vient de le démontrer Pierre-Edouard, la vente est parfaite, elle a été décidée, mais les modalités d'application de cette vente, la publication au service de publicité foncière notamment, est bloqué. Donc c'est vrai que ça c'est un vrai paradoxe, puisque tout a été bien décidé en assemblée spéciale, mais ces modalités sont bloquées par l'ensemble des copropriétaires. Donc on ne peut qu'aller vers la voie judiciaire pour faire valoir finalement ce droit à ce bâtiment, à cette partie commune spéciale qui a été valablement décidée.
Voilà, donc un petit risque. Hein. Alors, la règle de majorité, c'est article 26 hein, pour une vente de partie commune, qui bénéficie d'ailleurs, mais là, c'est pas le sujet, de la passerelle aujourd'hui, 26-1. Oui, donc, on peut vendre une partie commune à la majorité de l'article 25, si les conditions de la passerelle sont réunies. Merci Pierre-Edouard, c'était parfaitement clair. Je vous propose qu'on enchaîne et qu'on passe à la deuxième séquence, la question du copropriétaire.
Les As de la Copro, la question du copropriétaire.
Bonjour, je suis copropriétaire dans un immeuble du centre-ville de Toulouse. Notre mur séparatif avec la cour du voisin est très abîmé et nous devons le refaire. Voici ma question pour les As de la Copro. Qui doit prendre en charge la réfection de ce mur entre nous et le voisin, sachant qu'il sépare nos deux immeubles, à qui appartient ce mur? Autrement dit, quelles sont les règles de mutualité entre deux copropriétés?
Ok, je vais reprendre un petit peu là, parce qu'il y a plusieurs questions de notre ami toulousain avec ce bel accent là du sud-ouest là qui chante, ça fait du bien. Mathieu, là on parle de mitoyenneté. C'est vrai que souvent on est confronté dans les villes, hein, centre-ville, tout est un peu imbriqué. On a le mur pignon, on a le mur séparatif. Des fois il y a des pentes, des fois il y a pas de pentes. On parle du solin, du piédel. Bon, c'est un peu. On sait qu'il y a pas mal de choses. Il y a évidemment jamais rien marqué dans le règlement de copropriété. Donc à quoi on s'en remet? Le code civil, servitude. Bon, on sait pas trop où chercher. On tâtonne un peu. On demande au géomètre. Est-ce qu'on demande à un avocat? Déjà, première question, définition. De quoi on parle?
Alors donc la question. Qui est posé, c'est qui doit entretenir ce mur. Et pour savoir qui doit l'entretenir, bah, il faut savoir à qui il appartient. Il y a trois solutions. Soit il appartient au syndicat des copropriétaires que monsieur évoquait, soit il appartient au voisin, soit il est mitoyen. Et c'est là qu'il y a cette notion de mitoyenneté qu'on évoque et qu'il faut peut-être définir un petit peu. Alors, d'abord, si le mur appartient à l'un des deux, hein, ça c'est très simple. C'est le propriétaire qui prendra la décision de rénover et qui supportera les frais. S'il est mitoyen, eh bien la propriété et l'entretien seront partagés entre les deux voisins, quoi. Ce sera partagé avec le voisin. Alors deux secondes sur cette notion de mitoyenneté, c'est une notion qui est très ancienne, qui est définie par le Code civil dans la partie consacrée aux servitudes. Et ce qui est assez amusant, c'est que les articles de ce chapitre n'ont absolument pas été modifiés depuis l'origine. Ils datent de 1804.
Napoléon.
Napoléon, donc ça doit être, je pense, un cas extrêmement rare même dans le Code civil. Ce sont toujours exactement les mêmes règles qui s'appliquent aujourd'hui. D'ailleurs, la lecture de ces articles, et je vous encourage à les lire, est assez amusante parce que les termes et les formulations utilisées sont aujourd'hui un peu désuètes et elles tranchent complètement sur les textes hyper techniques qu'on a aujourd'hui. Alors le Code civil, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la mitoyenneté, ça concerne les murs ou les fossés, alors là, en copropriété en général, on parle de murs, qui servent de séparation entre les bâtiments ou entre les cours et les jardins. Donc on comprend que ça va séparer soit une cour, je crois que c'est le cas aujourd'hui, mais ça peut aussi, vous l'avez dit, séparer deux bâtiments accolés. Hein, on peut ne pas avoir de cour et de jardin et pourtant avoir un mur mitoyen avec le voisin. Voilà, donc ça concerne séparation entre les bâtiments, les cours et les jardins. Et simplement, si le mur est mitoyen, ce que dit le Code civil, eh bien, les deux propriétaires des terrains concernés auront une charge, une obligation, dans l'intérêt de l'héritage voisin, donc le terrain voisin, et c'est pour ça que c'est considéré comme une servitude.
Donc 50-50?
Alors, pas forcément.
Alors justement, comment on fait pour savoir?
Alors, pour savoir si le mur est mitoyen, là aussi, on va se référer au Code civil. Et le Code civil dit à ce sujet que s'il n'y a aucun acte, aucune convention qui indique clairement à qui le mur appartient, ouais, alors il y a une présomption de mitoyenneté. Donc première chose, bah, il faut aller rechercher s'il y a un acte, s'il y a une convention qui dit à qui le mur appartient. Dans ce cas-là, les choses sont assez simples et normalement la convention règle le sort du mur. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas très fréquent qu'il y ait une convention ou un acte qui règle clairement les choses. Et donc en l'absence de cette convention, le Code civil dit qu'il y a une présomption de mitoyenneté, juste qu'à preuve du contraire, le mur est mitoyen et donc la propriété est séparée entre les deux voisins. Mais c'est pas si simple. Parce que le Code civil, il apporte aussi ce qu'il appelle des marques, c'est-à-dire des indices de non-mitoyenneté. Donc quand on va avoir un mur, on va présumer qu'il est mitoyen, mais on va aller rechercher s'il y a certaines caractéristiques qui laisseraient penser, ou qui renverseraient la présomption, qui laisseraient penser que finalement il appartient bien à l'un des deux. Alors les plus connus de ces marques, de ces indices, hein, l'exemple le plus connu, bah, vous l'avez un peu évoqué en préambule, c'est le cas où le mur séparatif a une pente ou des tuiles.
Le sommet, hein, on parle du sommet
Le sommet du mur séparatif à une pente ou des tuiles qui ne sont orientées que d'un côté. Ou autre exemple...
Pour déverser l'eau. Hein, pour...
Alors voilà, du coup, l'écoulement de l'eau se fait que d'un côté.
D'accord.
Autre exemple pris par le Code civil, là aussi c'est assez amusant, il dit « S'il y a que d'un côté un chaperon ou des filets de pierre ou encore des corbeaux, donc des éléments de maçonnerie bien spécifiques, hein, bref, si le mur est manifestement plus ouvragé d'un côté que de l'autre, eh bien, a priori, le propriétaire est celui du côté duquel le mur est bien ouvragé. »
Donc s'il penche vers A, au sommet, voilà, s'il appartient au propriétaire A.
Si l'eau s'écoule vers A, il y a une présomption d'appartenance. La présomption est renversée et il y a une présomption d'appartenance du mur.
S'il s'écoule des deux côtés,
S'il s'écoule des deux côtés, là, il y a une présomption de mitoyenneté.
D'accord.
Voilà. Donc, on revient à la présomption d'origine, en fait. Après, on a un autre cas hein, qui peut paraître un peu plus compliqué. C'est le cas des bâtiments accolés. Et dans ce cas-là, le mur séparatif des bâtiments peut être mitoyen. Et là, alors, il est présumé mitoyen, ce mur séparatif, sauf si l'un des deux bâtiments est plus haut que l'autre. Auquel cas, là, il faut identifier où est ce qu'on appelle l'héberge, c'est-à-dire la limite de hauteur du bâtiment le plus bas. Et donc, le mur est présumé mitoyen sous l'héberge, donc la partie sur laquelle les deux bâtiments sont accolés. Et en revanche, il est présumé n'appartenir qu'au bâtiment le plus haut sur la partie qui dépasse de l'héberge.
La partie qui dépasse, qu'on appelle le pignon, hein, dans le langage courant, le pignon, on va ravaler le pignon, il est en très mauvais état... Bon, des fois, il y a un étage en surplomb, en écart, mais des fois, ça peut être 3, 4 étages.
Ou même le pignon peut être totalement en limite de séparation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bâtiment à coller au pignon. Et là, on est dans un cas où...
Alors, sur ce mur pignon, il y a le solin.
Oui, alors on rentre dans des détails un peu techniques, mais effectivement, l'usage est que on conserve au-dessus de l'héberge, donc c'est-à-dire vraiment de la partie purement la partie haute du bâtiment,
du toit,
on conserve une petite bande d'une trentaine de centimètres qui reste mitoyenne, et sur laquelle effectivement en général, on trouve un solin.
Et c'est ce qu'on appelle le solin. Ouais.
Voilà, on trouve un élément de maçonnerie qui est le raccord en fait du toit sur le mur pignon voisin.
Et de part et d'autre de la cheminée du voisin qui court sur ce pignon, il y a pareil deux bandes.
Exactement, de la même façon, il y a deux bandes de quelques centimètres qui sont pour assurer en maçonnerie l'ancrage de la cheminée sur le pignon. Et donc la partie qui sera derrière la cheminée sera mitoyenne et la partie, ces bandes de quelques centimètres, je crois une dizaine de centimètres, seront également mitoyennes.
C'est ce qu'on appelle le pied d'aile, on est sur...
Exactement, le pied d'aile.
Pareil, ouais, 30 centimètres. Et on a la mitoyenneté qui part du mur pignon, mais quand l'héberge, c'est pas le toit, c'est le sol. Et là, on est sur 3 mètres, me semble-t-il, de mitoyenneté.
Ouais,
d'ailleurs, on le voit dans les immeubles, hein, souvent, on est dans la cour. Je suis dans la cour de mon immeuble. Il y a le mur pignon du voisin qui démarre depuis la cour, hein, depuis le rez-de-chaussée. Et les 3 premiers mètres sont ravalés, sont repeints, sont en bon état.
Donc sont parfois mitoyens. On a aussi le cas dans les bâtiments accolés du mur mitoyen, ou plutôt du mur de séparation qui n'est porteur que pour l'un des deux bâtiments. Et dans ce cas-là, on considère qu'il devient mitoyen uniquement sur les 3,2 premiers mètres. Ça aussi, c'est un héritage du Code civil. Hein. C'est un des héritages du Code civil. Alors, 3,20 mètres dans les villes de plus de 50 000 âmes. C'est comme ça que c'est écrit dans le Code civil.
50 000 âmes, j'adore. C'est 2,60
mètres dans les villes de moins de 50 000 âmes.
Et ça, c'est toujours
ça, c'est
en vigueur.
Oui, c'est toujours en vigueur.
C'est génial. Vous vouliez compléter ?
Oui, alors une fois qu'on sait que le mur est mitoyen, on sait que finalement ce mur il est en indivision entre les deux voisins, et on sait que l'indivision c'est pas toujours très simple puisque ça implique certes une répartition des frais, une prise en charge des réparations partagées, mais ça implique aussi une décision partagée. Donc c'est pas parce que l'un des deux aura envie de faire des travaux qu'il pourra le faire, il faudra évidemment l'accord du voisin. Et puis il faudra aussi la répartition des frais. La répartition des frais est généralement à 50-50, mais pas toujours. Il peut y avoir des cas particuliers. On peut aussi avoir des murs qui sont mitoyens sur une partie et puis qui ne le sont plus sur l'autre. Mais donc en général, effectivement, une fois que le mur est mitoyen, la répartition des frais est à 50-50. Il faut aller solliciter le voisin pour savoir s'il est d'accord pour engager les frais. Quand ce sont deux syndicats de copropriétaires l'un à côté de l'autre, c'est pas toujours très simple. Il va falloir voter les travaux dans deux assemblées générales, se coordonner les syndics, coordonner les AG. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que si le mur est manifestement en très mauvais état et nécessite absolument des travaux, bien on peut aussi exercer un recours contre le voisin récalcitrant qui voudrait pas engager les travaux. Mais ça reste compliqué. Donc dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, Je pense que la conclusion, c'est qu'il faut garder des bonnes relations de voisinage, une bonne entente avec le voisin, et ça simplifiera beaucoup de choses en matière de copro.
Sachant que dans la pratique, hein, c'est vrai que quand moi je refais ma toiture ou ma souche de cheminée, au final, le solin et le pied d'aile, généralement, on le prend en charge à 100%. Mais c'est vrai qu'il est mitoyen, on pourrait demander une participation au voisin. C'est de cette petite bande, bon, on le fait, on a l'échafaudage, on refait la couverture, on fait le solin, on paye 100%. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. J'espère que... Alors, faut faire des analyses juridiques, hein, là, pour la mitoyenneté d'un mur. Mais là, vous avez les clés, je l'espère. Je vous propose de passer à la séquence 3, le métier de syndic.
Les as de la copro, le métier de syndic.
Alors là, on va parler avec Sabrina de l'opposition à l'article 20. Voilà, quand je dis ça comme ça, opposition à l'article 20, ça parle bien sûr à tous les syndics, pour les copropriétaires particuliers, profanes, un petit peu moins, mais on va expliquer ce que c'est. On est dans le cas de figure, là on est dans une problématique. Le syndic a omis de faire l'opposition de l'article 20 dans les 15 jours de l'avis de mutation qu'il reçoit du notaire. Donc il y a une vente, hein. Il y a une vente, le notaire envoie un questionnaire, un état daté, le syndic remplit cet état daté, le copropriétaire doit 3000 euros de charges, il est débiteur, le notaire interroge le syndic sur cette dette, le syndic fait bien l'état daté, la vente a lieu, hein, ça se signe, le notaire notifie au syndic la mutation, il lui envoie un avis de mutation, alors il y a aussi la notification de transfert de propriété, mais là on parle de l'avis de mutation, sans joindre le chèque de 3000 euros. Donc là-dessus, le syndic doit faire une opposition. Là, il ne fait pas l'opposition. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'argent est perdu? Est-ce qu'il y a encore un recours? Sachant que le propriétaire, bah, il est parti. Hein, il n'est plus là. Il y a un autre copropriétaire. Comment ça se passe, Sabrina?
Alors, juste pour effectivement revenir déjà sur l'article 20 et puis la mutation.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1965.
Naturellement, le lot qui est en mutation, donc le syndic, une fois qu'il a préparé effectivement l'état daté ou le questionnaire de vente, reçoit ce fameux avis de mutation qui va être le point de départ du délai d'opposition pour former opposition, dont le délai est de 15 jours. Ce délai, si on ne perçoit pas les fonds en tant que syndic et qu'on n'a pas formé opposition, eh bien effectivement, on perd la chance du syndicat des copropriétaires de pouvoir récupérer cette priorité, en tout cas, de règlement de charges dans ce délai. Il y a juste quelque chose que je voudrais ajouter, c'est que une fois ce délai, le fait de former opposition va permettre aussi au syndicat des copropriétaires et au syndic de bloquer en fait ces fonds pendant un délai de 30 jours. Et ça a été réduit, je trouve que c'est un point important, parce que c'est un délai qui a été réduit par la loi Elan. À l'époque, dès lors qu'on formait opposition, on avait un délai qui n'était pas du tout, qu'on ne pouvait pas maîtriser en tant que syndic. Et souvent, on était relancé par le syndicat des copropriétaires sur ce sujet, à savoir si le règlement avait été fait. Aujourd'hui, c'est 30 jours permettant au syndic justement de pouvoir apporter les éléments de preuve pour pouvoir récupérer les fonds dus. Donc pour venir sur l'opposition donc elle-même, le syndic n'a pas formé opposition, donc il a passé ce délai de 15 jours, il perd la priorité du paiement des charges, donc ça on l'a compris, et aussi il engage clairement sa responsabilité en tant que syndic, et notamment dans le cadre de sa responsabilité contractuelle de son mandat. Il a aussi, bah, quelque part, et d'ailleurs des jurisprudences l'ont confirmé, c'est un défaut de diligence, donc il met clairement sa responsabilité.
Mais les 3000 euros, est-ce que le syndicat, ils sont pas perdus, ils sont pas effacés?
Alors non,
la dette de 3000 euros n'est pas effacée.
Pour autant, donc le fait de pas avoir formé opposition, ça met effectivement toutes ces responsabilités en jeu, mais toutefois la dette n'est pas effacée. Une chose est sûre, c'est que le propriétaire qui a acheté, lui, n'est pas redevable de cette somme.
Bien sûr.
Le syndic, en tant que professionnel, peut continuer à procéder au recouvrement de cette somme directement auprès du copropriétaire.
Il fait un recouvrement classique, assignation, tribunal.
Exactement, une assignation classique. Après, on peut se poser la question de qui prend en charge ses frais de recouvrement, parce qu'il n'a pas effectivement été diligent dans le délai qui lui était consenti. Eh bien, Je pense, en tout cas, qu'en tant que professionnel, comme la plupart de tous les professionnels, que le syndic se doit, notamment dans le cas où des dettes sont importantes, minimes, mais de prendre en charge l'intégralité du recouvrement, et puis bien sûr d'en réclamer au titre de l'article 700, par exemple, une partie des frais de recouvrement, mais prendre en charge cette partie de recouvrement parce que c'est clairement une perte de chance qui a été faite pour le syndicat des copropriétaires. Donc non, on peut continuer le recouvrement. Souvent, on pense que parce qu'on a passé ce délai de 15 jours, eh bien, on n'est plus du tout habilité, en tout cas, à recouvrer les sommes. Il y a toujours ce recours, et donc il faut que tous les professionnels le fassent.
Donc, si je résume, on fait pas l'opposition. On a la dette ne s'efface pas, mais il faut partir sur un recouvrement de charges classique. Oui. Et là, la prescription est de 5 ans, hein, puisqu'on est sur une prescription de 5 ans classique. Alexis,
c'est sur les modalités de l'opposition. Hein, c'est que c'est extrêmement formel l'opposition.
C'est pas un huissier.
Syndic. Oui. Déjà. Axe extrajudiciaire, élection de domicile. Le syndic doit énoncer de manière extrêmement précise les causes et les montants des différentes créances. Donc ça, c'est extrêmement important. On se contente pas d'un solde dû. Donc ça, c'est à l'intention des syndics et des comptables en copropriété, c'est extrêmement important pour pouvoir évidemment bloquer les fonds de manière, je dirais, très 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 légale. C'est-à-dire que les juges sont extrêmement rigoristes sur la forme de l'opposition. Donc ça, c'est pour cette raison qu'il est extrêmement...
Généralement, à la suite de l'état daté qui est remis par le syndic, généralement, les notaires font le virement. On l'a, le règlement. C'est assez rare, finalement, qu'on soit amené à faire une opposition. Bon, là, on est dans le cas de figure où on n'a pas les fonds. Il faut faire opposition par huissier dans les 15 jours.
Oui,
on l'a pas fait. Et on a vu avec Sabrina ce qui se passait. Mais généralement, on a les fonds.
Mais dès lors qu'on enclenche la procédure, il faut être extrêmement rigoureux dans la manière dont on présente, notamment, les sommes dues par le copropriétaire vendeur. C'est là où les juges sont extrêmement rigides et sévères. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut être extrêmement précis, hein, sur les différentes catégories de provisions.
Et alors pour l'information des copropriétaires qui nous écoutent, le syndic a fait l'opposition. Il l'a bien fait dans les 15 jours et dans les formes. Que doit faire le notaire? Qu'est-ce qui se passe? Il doit libérer les fonds?
Il a 30 jours depuis la loi Elan, c'est-à-dire que dans le délai de 30 jours, effectivement, le syndic va apporter des éléments complémentaires.
C'est 3 mois, c'est pas 3 mois, c'est 3 mois. Le délai, c'est au bout de 3 mois. Hein. La loi, avant la loi Allure, il n'y avait pas de délai du tout.
Oui.
Et la situation pourrissait. Hein. Avant la loi Allure, c'était 2014. Et tant qu'aucune des parties ne bougeait pour faire valider ou pour s'opposer à l'opposition, le notaire gardait des fois ad vitam aeternam le montant séquestré. Maintenant, donc au bout de 3 mois, hein, c'est ce que nous dit l'article 20 maintenant, Pierre-Edouard, au bout de 3 mois, le notaire libère les fonds et les donne au syndic.
Sauf si le copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en nullité en fait de l'opposition ou en conteste les montants.
Et donc dans les 3 mois de l'opposition.
Donc dans ce délai, à défaut de quoi, le notaire doit remettre les fonds, ce que tous les notaires d'ailleurs n'ont pas toujours assimilé, pourtant la réforme est ancienne. On a encore des réponses selon lesquelles non, mon client n'accepte pas, les fonds sont séquestrés. Oui, non, mais attendez, il y a un texte quand même qui nous dit que vous devez libérer les fonds, donc on va vous faire une saisie, parce que c'est du légal, et après... ça n'empêche pas. Il y a une deuxième chose qu'il faut ajouter, c'est que dans ce cas-là, c'est au copropriétaire qu'il appartiendra d'agir. Et c'est pour ça qu'il est très important, comme le disait Alexis, d'être très précis sur l'acte d'opposition. Parce que quand on en est là, on sait qu'on est déjà dans du contentieux. Parce que, comme il a pu être rappelé, dans la plupart des cas, les fonds sont versés au moment de l'état daté. Donc quand ça n'est pas le cas, c'est qu'on est déjà dans un litige. Donc il faut être très rigoureux. Et après, si le copropriétaire oublie, est négligent ou... ne veut pas utiliser cette voie-là, il peut laisser les fonds être libérés et agir ensuite pour les récupérer en faisant une action en répétition de l'indu et en contestant...
Donc après les 3 mois, il a encore un recours.
Idéalement, le bon conseil, si on est du côté copropriétaire, c'est de contester dans le délai de 3 mois, évidemment. Parce que là, les fonds sont bloqués, il est sûr de les récupérer, etc. Mais même s'il oublie cette procédure, même s'il n'est pas conseillé à ce moment-là, les voies d'action ne sont pas fermées par la suite.
D'accord, donc c'est intéressant. Et bon, cette règle et ces délais s'appliquent même si on est en cours de procédure de recouvrement de charges.
Alors il faudra effectivement, dans tous les cas, être très précautionneux sur les délais. Délais de prescription, à la fois pour le syndicat des copropriétaires qui demande des sommes, parce que ça peut être l'objet d'une opposition lorsqu'il y a des demandes de plus de 5 ans. Ceci dit, le syndicat des copropriétaires a toujours intérêt à demander des sommes, même prescrites. Hein.
On ne sait jamais.
Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais la prescription, c'est un moyen de défense. Donc si la partie adverse ne le soulève pas, y compris judiciairement, ce n'est pas au juge de soulever d'office la prescription. C'est un moyen de défense que les parties doivent soulever. Donc si elle ne le soulève pas, a priori, la condamnation doit être prononcée, même pour des sommes plus anciennes. Donc le syndicat, lui, il a tout intérêt à le faire. Et là, le copropriétaire a tout intérêt à dire « Attendez, il y a une partie des sommes qui sont prescrites. » Et là, on peut discuter. Et donc, on a tout intérêt à faire ça. Tous les délais vont s'appliquer, y compris sur la répétition de l'indu, etc. Donc, il faudra étudier au cas par cas, effectivement, ces délais qui sont très importants en matière de...
Vous parliez de l'opposition et du détail de l'opposition. Il fallait détailler la nature des dettes. Est-ce qu'on peut faire opposition aussi pour les honoraires d'état datés du syndic? Parce que on peut avoir le copropriétaire vendeur qui dit non au notaire, ok, je veux bien payer ma dette de charge, mais par contre, les 380 euros d'honoraires du syndic, vous les payez pas.
Bon, c'est une dette du syndicat, hein, l'état daté. Hein. C'est une imputation, oui, privative, mais c'est une dette du syndicat des copropriétaires. Donc.
Bon, on la met dans l'opposition.
Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Alexis. C'est une dette du syndicat et c'est un mécanisme de subrogation légale. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu déjà écrire, en discuter et écrire. Mais il y a une décision ancienne d'une cour d'appel qui avait dit strictement le contraire. Je pense que cette décision n'est pas bonne. Je pense qu'elle n'a pas de raison d'être dans la mesure où il est strictement prévu par le contrat ses honoraires et qu'effectivement, dans une décision du Conseil d'État, quand s'était posée la question de la légalité du plafonnement des honoraires, le Conseil d'État avait rappelé que c'était une dette d'abord du syndicat, même s'il y avait une imputation
imputée,
de cette dette
comptablement.
Au compte particulier du copropriétaire. Il ne faut pas confondre l'imputation de la dette à la répartition comptable et l'exigibilité auprès du débiteur qui est le syndicat des copropriétaires. Donc pour moi, en toute légalité, on peut le demander dans le cadre de l'état daté. Ça ne devrait pas poser de difficultés. Maintenant, c'est toujours à l'appréciation des juges et parfois...
Et des humeurs du juge. Je vous remercie.
Oh, pas des humeurs, mais de l'appréciation.
On parle de la première instance. Merci beaucoup. Et je vous propose qu'on enchaîne et qu'on passe à la séquence suivante, la deuxième question du copropriétaire.
Les As de la Copro, la question du copropriétaire.
Bonjour. Je suis copropriétaire dans un petit immeuble à Paris qui a été vendu à la découpe par un marchand de biens. Nous avons constaté au fur et à mesure des anomalies sur les parties communes. La toiture est très ancienne. Le collecteur d'évacuation des eaux enterrées dans la cour est fuyard. Et le marchand de biens nous dit qu'il n'y a pas touché, qu'il n'est pas concerné. Donc ma question serait, est-ce que vous avez un recours contre le marchand de biens? Qu'est-ce que l'on pourrait faire en vice caché ou en garantie décennale? Je vous remercie pour votre aide et ce que vous pourrez nous apporter comme éclaircissement.
Alors, question intéressante hein, à laquelle les syndics, les gestionnaires qui gèrent des immeubles anciens mis en copropriété ou remis en copropriété par un marchand de biens, c'est ce que nous explique la copropriétaire là au téléphone, vente à la découpe, elle a acheté. Elle n'a pas acheté un immeuble neuf, hein, elle n'a pas acheté dans un immeuble neuf. Hein, qu'on soit bien d'accord, elle a acheté un vieil immeuble qui vient d'être mis en copropriété par un vendeur professionnel, hein, un marchand de biens. Et bah forcément, il n'est pas neuf, donc la toiture, elle commence à fuir. Le collecteur qui est dans la cour, bah, en grès, il est fuyard, il est cassé. Mais ça, le marchand de biens lui répond qu'il n'est pas intervenu sur la toiture. Il a fait un rafraîchissement de la cage d'escalier, bien sûr. Il a retapé les appartements, bien sûr. Mais sur les parties communes, il n'a pas fait grand-chose. Il y a eu le DTG obligatoire, pas de problème, mais ça c'est juste pour l'information. Est-ce que le copropriétaire a un recours? Parce que souvent il nous appelle, hein, nous syndic, oui, il faut actionner la garantie vis cachée, il faut actionner la garantie vis cachée. Bon, on a ce mélange, elle en parle, hein, vis cachée, garantie décennale, c'est pas le même fondement lequel on utilise. Est-ce qu'on peut les utiliser à chaque fois? Pierre-Edouard, vous avez la réponse?
Je crois et je pense qu'en fait, la réponse n'est pas très compliquée. Il suffit de revenir à la définition de ce qu'est la garantie des vis cachés et la garantie décennale. Ce sont deux garanties tout à fait distinctes. Alors, on peut les confondre parce qu'elles ont un objet un petit peu commun, je vais le préciser, mais elles ne recouvrent pas le même champ d'application. Et c'est assez simple, finalement, de les distinguer. La garantie contre les vices cachés, d'après c'est l'article 1641 du Code civil, c'est une action qui permet d'agir lorsqu'on est face à un défaut qui rend impropre la chose vendue, qui la rend impropre à sa destination. C'est-à-dire, j'achète de l'habitation, je peux pas y vivre. Je caricature, mais c'est ça, un propriété à la destination. J'achète pour exploiter un commerce, je peux pas l'exploiter, c'est impropre à sa destination. Mais il y a aussi d'autres options pour caractériser le vice caché. C'est un vice qui diminue tellement l'usage, donc la destination, vivre, exploiter, qui diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'en aurait pas donné le même prix. Il n'en aurait donné qu'un prix moindre s'il avait connu ce vice. Donc en somme, comme je le disais, si j'achète une maison pour y vivre mais que je ne peux pas y vivre parce que le bien est impropre à sa destination, il y a vice caché. Ou si j'achète une maison, peu importe le prix, 1 million, et qu'en fait, compte tenu des vices qui sont considérables et qui vont emporter des travaux considérables, par exemple 500 000 euros, évidemment, je ne l'aurais pas acheté à ce prix-là.
Mais alors là, concrètement, le collecteur cassé, il y en a pour 30 000 euros, il faut le remplacer. Et ils nous disent, ils demandent au syndic de faire payer le marchand de biens. On voudrait que vous fassiez payer le marchand de biens. Je peux le faire payer ou je ne peux pas le faire payer?
D'abord, dans le cadre de la vente, c'est un rapport entre parties à la vente. Donc je ne suis pas le syndicat des copropriétaires n'est ici pas dans ce rapport. Autant il va bénéficier de la garantie, je vais y venir, des Cénales, parce que ça porte sur les parties communes et que le syndicat administre ces parties communes, autant dans le cadre du vice caché, c'est un rapport entre acquéreurs
et vendeurs. Donc là, le syndicat n'est pas recevable pour une action.
Le syndicat n'est pas concerné, donc on est sur une action des copropriétaires à titre individuel dans le cadre des parties à la vente pour le vice caché. Et justement, la différence avec la garantie des Cénales, c'est que au sens des articles 1792 et suivants, il faut qu'il y ait un désordre, et c'est en ça que ça va se rapprocher, il faut qu'il y ait un désordre qui affecte la solidité de l'ouvrage ou qui le rend impropre à sa destination. Donc là, on a une communauté un petit peu d'objets. Mais la différence, c'est que cette garantie n'est mobilisable, c'est ce qu'on appelle une garantie des constructeurs et aussi des maîtres d'ouvrage, ce qu'est le marchand de biens. C'est une garantie qui est mobilisable lorsqu'il y a eu des travaux qui ont été réalisés. Et donc, c'est ce qui répond d'ores et déjà à la question qui est posée sur la mobilisation de cette garantie. C'est une garantie qui est mobilisable lorsqu'il y a des travaux. Or, on nous dit dans cette question qu'il n'y a pas eu de travaux. Donc, la garantie décennale ne peut pas être mobilisée puisque c'est la condition essentielle. Il faut qu'il y ait des travaux. Et encore même, il faut que ces travaux aient été déclarés dans le contrat d'assurance pour qu'ils puissent être garantis. Donc ici, ça n'est pas le cas, donc il n'y aura pas de mobilisation de la garantie décennale. Et s'il y avait eu, il aurait fallu que les désordres emportent une impropriété de l'usage ou rendent inhabitable l'immeuble. Donc c'est à apprécier au cas par cas, comme pour le vice caché, et c'est ce qui veut dire que dans certaines situations, on ne peut avoir ni garantie des vices cachés, ni garantie décennale, ou on peut avoir l'un ou l'autre, et parfois même les deux. Mais ce ne sont pas les mêmes personnes qui mobiliseront ces garanties si on est sur des parties communes ou des parties privatives.
Donc là, promoteur rénovateur, hein, c'est comme ça qu'on appelle les marchands de biens aujourd'hui, il a raison, Alexis. Le collecteur fuyard sous la cour, il y en a pour 30 000 euros, ça ne concerne pas le marchand de biens.
Sauf à prouver, puisqu'on a quand même quelques décisions. J'ai trouvé une décision là qui, enfin, c'est une cour d'appel, mais qui considère le marchand de biens qui est assimilé à celui d'un professionnel au sens de l'article. Et il est donc réputé connaître le vice. Cette présomption est irréfragable. Elle ne cède pas devant l'impossibilité de détecter le vice. Donc là, c'est un arrêt de cour d'appel de novembre 2020. Donc ça voudrait dire que potentiellement, même s'il était en incapacité de connaître la nature spécifique de cet équipement, potentiellement, alors moyennant une procédure et démontrer qu'effectivement le collecteur avait un vice caché de manière très simple.
Il est vicié.
On pourrait assigner, enfin, peut-être que le copropriétaire.
Mais si on est sur le vice caché, comme disait Pierre-Edouard, c'est chaque copropriétaire individuellement qui doit agir.
Ouais, ou en gros,
on est sur le droit de la vente. Ouais. On est sur le contrat de vente.
Il faut démontrer l'impropriété de la chose. Pas l'impropriété de la canalisation ou du collecteur. C'est la conséquence de la fuite.
Si par exemple le collecteur inonde les caves qui sont en dessous, on est bon.
Concernant la vente des caves et pas la vente des appartements, mais si ça inonde le terre-plein et qu'on peut tout à fait vivre dans l'immeuble, il y a certainement un désordre, mais il y a pas de vice caché.
Généralement, le désordre, c'est une déformation de la cour.
Sauf si y a un effondrement du terre-plein, etc. Mais c'est là où il y a un cas par cas sur lequel il faut être précis. Après, il y a d'autres choses. Il y a la responsabilité, et il y a la responsabilité du professionnel vendeur qui a une RCP, qui a fait des travaux, qui n'a pas déclaré. Il y a éventuellement le DOL, qui est un autre fondement, parce qu'il y a beaucoup de fondements en fait en matière de vente et d'action contre des vendeurs. Peut-être que le DOL, parce qu'il aurait dû savoir ou il a su et il n'a pas fait. Et dans ce cas-là, on peut obtenir une indemnisation. Mais dans le cas de, spécifiquement, c'était la question hein, du vice caché ou de la garantie, il faut être très précis. Ça ne peut pas être mobilisé dans tous les cas et par n'importe quelle personne. Par contre, Alexis a totalement raison. Si on est dans le cadre du vice caché, comme le marchand est présumé être un professionnel, la Cour de cassation l'a précisé, et qu'en plus il y a l'article 1645 du Code civil qui nous dit que si le vendeur connaissait la chose, il peut être condamné en plus de la restitution du prix à des dommages d'intérêt, et qu'on présume, comme je viens de le dire, le vendeur professionnel comme étant informé du vice, eh bien on a une facilité dans le cadre de l'action en vice caché. Faut-il qu'il y ait vice caché, c'est-à-dire un propriété de la chose ou une atteinte au prix tel qu'on l'aurait pas acheté ce bien au même prix?
Oui, donc pas évident, bien que, comme je l'ai dit hein, dans la question, le diagnostic technique global est obligatoire là, hein, quand on a une copropriété qui a plus de 10 ans, je crois.
Ouais, 10 ans. Je pense que c'est fondamental. Hein. Il faut que, quand on achète à un marchand de biens, on n'achète pas dans un immeuble neuf, et ça, il faut en avoir conscience. Et les travaux ne consistent pas nécessairement en une remise à neuf d'absolument tous les éléments du bâtiment.
Et oui, c'est ça qu'il faut rappeler.
Il faut bien avoir conscience de ce qu'on achète. Et effectivement, vous évoquez le diagnostic technique global. Ça, c'est un élément d'information extrêmement important qui est dorénavant obligatoire à l'occasion d'une mise en copropriété. Donc, dans quasiment tous les cas de vente à la découpe d'immeubles. Et ce diagnostic technique global, normalement, a dû vérifier l'état du toit et du collecteur.
Donc si le collecteur cassé figure au DTG, c'est plus un vice caché.
Ah ben non.
C'est un vice découvert.
Oui, qui a été communiqué en plus. Ouais.
Et ça, je pense que plus généralement, au moment où on achète à un marchand de biens, ou dans le cas d'une rénovation complète ou semi-complète, eh ben, il faut être particulièrement vigilant à ce qu'on achète, même à la manière dont la découpe a été opérée. Hein. On peut aussi avoir, sur le plan purement du montage strictement administratif de la copropriété, des choses quelquefois un petit peu compliquées à mettre en œuvre ultérieurement. Et là, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps avec le notaire de bien analyser ce qu'on achète, parce que c'est pas acheté dans un immeuble neuf.
Oui, et souvent c'est acheter un immeuble plutôt en mauvais état, hein, les immeubles marchands de biens. Alors après, il y a certains marchands de biens qui font quand même de gros travaux sur les parties communes, et certains qui font, on va dire, du cache-misère. J'en ai géré certains, voilà. Et donc, je sais à quel point ça peut être compliqué derrière de gérer ça avec des copropriétaires acheteurs. Très mécontent, très mécontent, surtout que le syndic est syndic provisoire, choisi par le marchand de biens comme dans le cadre du promoteur. Donc, on sait toutes ces problématiques. Je vous remercie pour ces éclairages et je vous propose qu'on passe à la dernière séquence, la séquence politique.
Les As de la CoPro, la séquence politique.
Peut-être Mathieu, on va ouvrir. On va parler du Sénat, le Sénat et de la commission d'enquête du Sénat sur la paupérisation des copropriétés. Cette commission a eu lieu de février 2024. Le rapport a été déposé en juillet 2024, donc là c'est tout récent. Présidé par Amel Gacquerre, hein, sénatrice, une centaine, hein, je crois, de personnes ont été auditionnées. Ben, je crois que Pierre Gore, vous avez été auditionné. J'ai été auditionné en tant que syndic et président de la NGC sur la paupérisation des copropriétés. En fait, on parle de quoi? Des copropriétés en difficulté. Hein, c'est un autre terme pour parler de la même chose. 25 recommandations ont été faites dans ce rapport. Elles sont plutôt concrètes, intéressantes. C'est des idées qui sont reprises hein, par les professionnels, les praticiens, l'avocat, professeur, syndic même, hein, syndic de copropriété. Et il y a une de ces recommandations, on va peut-être faire un focus dessus. Si vous voulez parler d'autres recommandations, vous pouvez. Mais il y en a une qui m'a un petit peu, qui nous a un petit peu intéressé. C'est la recommandation numéro 19. Faire du conseil syndical un véritable conseil d'administration de la copropriété. Voilà. Ça amène à réfléchir. Mathieu. Ça veut dire quoi, faire du conseil d'administration, du conseil syndical, un conseil d'administration, faire du CS, un CA?
Alors, je ne sais pas si vous avez raison d'ouvrir avec moi, parce que je suis extrêmement dubitatif sur ce sujet, mais
c'est
mais
la séquence politique,
on
vous
va essayer
avez
de...
le droit de critiquer,
on va essayer de définir.
Vous avez même presque obligation.
Donc, ce qu'on comprend, c'est que le rapport préconise de faciliter la gouvernance du syndicat, et donc de rendre plus simple la prise de décision, de donner plus d'agilité pour la mise en œuvre des décisions les plus importantes. Et là, on comprend, puisqu'on parle de copropriété en difficulté, hein, on comprend qu'on n'est pas trop sur le volet du recouvrement des charges, mais plutôt sur la prise de décision de réalisation de travaux nécessaires au bon entretien. Mais on comprend qu'on se place quand même sur le volet de la réalisation de travaux ou de la programmation et de la mise en œuvre de l'entretien de l'immeuble. Hein. Et donc, l'idée, ce serait de donner au conseil d'administration au conseil syndical devenu conseil d'administration, beaucoup plus de pouvoir qu'il n'en a aujourd'hui, et notamment, très probablement, le pouvoir d'engager de son propre chef, de sa propre initiative, des travaux. Alors,
Dans le rapport, il donne un exemple. Hein. Ce conseil d'administration, un peu puissant, quoi, hein, pourrait gérer de façon totalement autonome 10% du budget prévisionnel de l'immeuble.
Oui, alors là aussi, c'est un exemple, mais le budget prévisionnel de l'immeuble, c'est un budget qui sert à réaliser des travaux d'entretien courant. Aujourd'hui, l'entretien courant, il est réalisé par le syndic dans le cadre du budget prévisionnel, en relation très étroite avec le conseil syndical. J'ai du mal à imaginer ce qu'apporterait à l'amélioration de l'entretien courant de l'immeuble l'octroi de 10% du budget que le conseil syndical pourrait engager de sa propre initiative. Est-ce que c'est lui qui passerait les commandes? J'en sais rien. Je vois pas bien la différence.
Sachant que ça ressemble un peu avec le nouvel article 25... 21... -2 et suivant, ou -1 et suivant, de la loi Élan.
Sur la délégation.
On en a déjà parlé ici, sur la délégation, qui est un échec.
Alors, oui. qui est un échec.
Parce que trop compliqué.
En tout cas, moi, j'ai jamais vu de délégation dans le cadre du budget courant. C'est ce qui est prévu, mais encore une fois, le syndic et le conseil syndical sont normalement en relation régulière, et donc s'il y a des travaux à engager, le syndic et le conseil syndical sont autonomes pour engager ces travaux dans la mesure où ils relèvent bien des dépenses courantes. Après, il reste à fixer le budget correctement de manière à ce que ça ne mette pas la copropriété en difficulté. Moi, je pense que le sujet porte sur les travaux, les gros travaux qui nécessitent aujourd'hui le vote de l'Assemblée générale. Et là, la question, c'est est-ce que on octroie au conseil syndical devenu conseil d'administration une enveloppe globale, et le conseil d'administration décide des travaux qui seront engagés dans le cadre de cette enveloppe. Je crois qu'on tourne autour de ce sujet depuis 5 ans, peut-être même plus. La question a été à l'origine même des travaux qui ont débouché sur l'ordonnance de 2019. Et vous l'évoquiez, on a vu ce que ça a donné. En fait, à mon avis, en France, on est quand même très attaché au droit de la propriété, à cette
au modèle, et on veut pas dessaisir l'Assemblée générale.
Oui, mais on peut très bien encore. Alors, je pense qu'on aura du mal à dessaisir l'Assemblée générale de la décision d'engager des travaux financièrement importants. En revanche, et on pourra ouvrir un peu plus sur d'autres difficultés qui bloquent la réalisation des travaux. Je pense qu'aujourd'hui, avec les outils qui existent, un conseil syndical qui est motivé et qui consacre du temps, avec un bon syndic, sait établir et étudier des projets de rénovation nécessaires pour l'immeuble. Arriver devant l'Assemblée générale avec un dossier bien monté, bien établi, justifié, financé, et en général, l'Assemblée générale vote. Ou si elle vote pas, c'est qu'il y a d'autres sujets. C'est que soit les travaux sont pas nécessaires, ou soit les gens n'ont carrément pas les moyens de financer. Mais là, mettre un conseil d'administration n'aidera pas.
Alors c'est vrai que le mot paraît un peu clinquant, hein, conseil d'administration, Alexis, un peu à l'américaine, ah, où oui, on a, où, comme dans les ASL,
français,
où,
oui, c'est le paradoxe français.
C'est les copropriétaires qui décident eux-mêmes, et puis le syndic finalement ne serait qu'un exécutant. Mais là, on parle de est-ce qu'on rémunère ces personnes, copropriétaires qui travaillent?
Sujet de la rémunération, sujet de la responsabilité, et sujet aussi des mentalités, hein, parce qu'effectivement, on évoque, et dans le rapport d'ailleurs, il y a l'exemple des États-Unis. Alors, c'est toujours intéressant, c'est que ça, c'est le paradoxe français, c'est qu'on est à la fois un modèle de, pour le modèle de la copropriété dans le monde entier, mais maintenant c'est nous qui allons voir ce qui se fait à l'extérieur pour essayer de l'intégrer chez nous, alors que d'habitude c'est jusqu'à présent c'était l'inverse. Est-ce que aujourd'hui le copropriétaire français il est prêt aujourd'hui à se dessaisir, comme le dit Mathieu, finalement de son pouvoir, parce qu'effectivement on donnerait à un petit nombre de copropriétaires, 3, 5, 7, en fonction de la taille de l'immeuble, finalement presque les pleins pouvoirs, alors même si au titre du rapport, de manière très étonnante, tu te limites à 10% du budget. Pourquoi 10? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 30? Si c'est
oui, pourquoi pas 50% du budget?
Oui, oui, bah, mais oui, puisque en général, sur un budget, les dépenses d'entretien courant, c'est 90% du budget prévisionnel. C'est du courant de toute façon. Bon, ce seuil de 10%, on a du mal à comprendre. Mais au-delà de ça, c'est la refonte un peu globale de notre système. De notre système de copropriété et de prise de décision de l'Assemblée générale. Donc ça c'est un chantier qui avait été initié par des travaux du Gréco il y a quelques années, repris, déformé au titre de l'ordonnance. Et c'est devenu cette fameuse délégation.
Oui, parce que le Gréco, ce groupe de travail, donc à l'époque quand il était présidé par le professeur Périnée Marquet, donc avant la loi Elan, avait refait travaillé sur une nouvelle loi de 65, qui était divisée par deux d'ailleurs en nombre de mots. Ça, c'était une excellente idée. Et il proposait de créer ce conseil d'administration. Mais par contre, c'était pour les grosses copropriétés.
Oui, 200 lots.
Ouais, 200 lots. Bon, ça n'a pas été repris, hein. Mais Sabrina, parce que derrière cette idée revient toujours la même problématique. L'Assemblée générale serait un organe bloquant.
Alors, oui, c'est
réfractaire, conservateur.
Oui, alors que, à mon sens, je pense qu'on éloigne un peu plus en fait le pouvoir de l'Assemblée générale en donnant le conseil d'administration très bien, la versus conseil syndical plus qui aurait plus de pouvoir, qui pourrait engager des dépenses plus importantes. On comprend l'idée, faciliter la gestion courante, exactement la prise de décision. Jusque là, je pense que tout le monde est à peu près d'accord sur l'idée de pouvoir accélérer, notamment dans les copropriétés en difficulté, mais la prise de décision. Toutefois, le risque, à mon sens, c'est justement de venir amoindrir le pouvoir de cette Assemblée Générale qui vient responsabiliser chacun des copropriétaires et finalement leur vote serait quelque part effectivement peut-être décidé des travaux, mais toutefois si toute la partie de retenue d'entreprise et autres ne leur sont pas peut-être présenté dans les détails dans lesquels on les fait aujourd'hui, voilà, ça pourrait rendre un peu moins.
Parce qu'on prive les copropriétaires, bon, de leur âge, mais bon, ils viennent pas non plus en assemblée générale. Les copropriétaires, il y a un problème d'absentéisme.
C'est vrai.
C'est 50%, et 50% y compris avec les pouvoirs et les votes par correspondance. Ah, moi, sur mes immeubles où ils sont 50 copropriétaires en assemblée générale, ils sont 7, 8,
oui,
9.
C'est vrai qu'on a de l'absentéisme.
9h, 18h, c'est pas une question d'horaire.
Oui, oui, tout à fait. C'est pas une question d'horaire. C'est
donc à un moment donné, j'ai envie de leur dire, écoutez, avec ceux qui sont, et d'ailleurs, c'est souvent ceux qui sont présents, les membres du conseil syndical.
Oui.
Donc à un moment donné, t'as envie de leur dire, bon, on va peut-être arrêter avec ce grand formalisme de l'Assemblée générale, puis bosser juste nous avec le conseil syndical.
C'est vrai, sauf qu'on peut pas faire de généralité sur des immeubles plus importants. Il y a quand même des copropriétaires présents, et je pense que même si on a un taux aujourd'hui qui est assez faible de participation, le risque est d'avoir un taux encore plus faible parce qu'on les désintéresse, on leur donne encore moins de pouvoir, entre guillemets, en tout cas leur pouvoir de copropriétaire. De décider, celui qui paye décide de ses travaux, et finalement de donner au conseil syndical un pouvoir qu'il a déjà presque, en tout cas sur les travaux d'entretien j'entends, mais qu'il a déjà et qu'on utilise peut-être pas comme il faut ou assez, ou certains l'utilisent déjà sans que ce soit formalisé, avec grâce aux délégations et des pouvoirs, notamment le montant qui est donné au conseil syndical pour engager des travaux jusqu'à telle hauteur. Donc c'est des choses qui existent déjà. Je pense que là on crée en fait un autre organe, un autre pouvoir de décision dans déjà une complexité qui est de notre métier que vous connaissez tous.
Après, le système anglo-saxon, enfin, le système, il a le mérite de fonctionner après, avec un esprit anglo-saxon, parce qu'il y a toujours des assemblées générales, quand même, dans les condos ou dans les coops ou dans
parce que là, l'assemblée générale, dans cet esprit-là, c'est l'assemblée générale des actionnaires. Le conseil d'administration, c'est le conseil syndical, c'est le conseil d'administration de la société. Et puis il y a le PDG ou le directeur général.
On a déjà cette typologie. Alors ils sont, c'est très rare. On a déjà, même en France, hein, il existe aujourd'hui. Alors, très axé et très focalisé en région parisienne. Je crois que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler ici, où on a aujourd'hui encore des anciennes SCI ou sociétés anonymes immobilières qui fonctionnent déjà sous ce système avec des porteurs de parts. Ils ne sont pas corporataires, ils sont porteurs de parts. Il y a un conseil d'administration qui gère. Alors je vais vous dire qu'effectivement, ça se passe bien aussi. C'est-à-dire qu'il y a des prises de décision qui s'opèrent, il y a des rénovations énergétiques qui s'opèrent. Alors malheureusement pour eux, ils n'ont pas le droit aux subventions, mais c'est aussi un modèle qui fonctionne aussi. Ça veut pas, c'est pas pour autant que ça n'est pas bien, que ça ne fonctionnerait pas.
Et puis il faut trouver des personnes motivées.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Mais effectivement, dupliquer ça de manière, est-ce que ça concernerait toutes les typologies d'immeubles, parce que ça peut très bien convenir à une certaine typologie d'immeubles, mais pas à d'autres.
Oui, mais c'est pour ça que le Gréco parlait à l'époque de plus de 200 lots.
Donc voilà. Après, le sujet qui se pose aussi, c'est qu'on, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ouais, c'est le sujet de la responsabilité hein, d'un membre du conseil d'administration, responsabilité, je dirais, parce que collectif du conseil
d'administration... Sachant qu'ils sont déjà responsables, hein, chaque membre de conseil syndical actuellement.
Mais est-ce que c'est...
Alors les juges sont très indulgents, j'en veux pas aux juges, surtout qu'on a une très bonne décision.
On pourrait considérer que la responsabilité pourrait être accrue sur le sujet, hein, parce que ça pourrait être une responsabilité collective plus une responsabilité individuelle. Sujet aussi de la rémunération. Est-ce qu'un membre d'un conseil d'administration...
Que le bénévolat, ça a ses limites. On l'a bien vu.
Rémunéré, tout à fait. Hein
Faites-le vous-même, ça a ses limites, surtout quand on parle de responsabilité. Vous vouliez rebondir, Edouard.
Oui, un mot peut-être de conclusion ou de synthèse. À vous entendre, puis à lire le rapport, au fond, ce qu'on constate, c'est que ça fait plusieurs années qu'on se pose la question de ce qu'on peut appeler la gouvernance. C'est la gouvernance. Et cette question de la gouvernance qui revient maintenant depuis une dizaine d'années avec insistance peut faire penser qu'on est proche d'une révolution en matière de copropriété. Ça ne veut pas dire qu'elle est souhaitée ou qu'elle est souhaitable. Ça veut dire que la question se pose véritablement de savoir s'il faut renverser le modèle de la loi de 65 qui prévoyait une gouvernance très claire avec un organe de décision, un organe d'exécution, de représentation aussi, et un organe de surveillance. C'était le modèle de la copropriété française. Aujourd'hui, il y a eu de multiples atteintes à ce modèle au fil des réformes, parce qu'on a voulu donner un peu de pouvoir de décision au conseil syndical, un peu plus de pouvoir de surveillance, avec des pouvoirs de contrainte qui n'existaient pas à l'origine, qu'on a voulu faire des délégations au syndic, au conseil syndical. Bref, on a créé plein de petits modèles, plein de petites atteintes à ce qu'était la gouvernance d'origine, et qui crée un manque de lisibilité, un manque de clarté. Et aujourd'hui, on est entre deux ou trois modèles. Et on n'a plus la clarté du modèle d'origine. C'est pour ça que je pense qu'on est à la veille d'une révolution qui est soit une clarification pour un retour au modèle d'origine, soit un basculement vers autre chose. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut interroger. On ne peut pas le trancher ici en deux minutes de débat entre nous. Mais la question, elle est fondamentale parce que soit on considère qu'il y a besoin de plusieurs modèles, comme en droit des sociétés. En droit des sociétés, il y a la SARL, il y a la SAS, il y a la SASU, il y a plein de modèles différents, avec de la liberté contractuelle, avec du modèle rigide. Même la SAS comprend deux modèles différents, un conseil d'administration, un conseil de surveillance. Donc on a une adaptation possible du modèle au but recherché. Et en copropriété, certes, le but, il est unique, c'est administrer l'immeuble, l'améliorer, l'entretenir. C'est fixé par la loi de 1965, mais il y a plein de manières différentes de le faire, et certainement qu'une copropriété de trois copropriétaires avec trois lots, c'est pas la même qu'un grand ensemble de 1000 lots avec 1000 copropriétaires, des investisseurs, des bailleurs, des occupants, etc., avec du social. Et au fond, est-ce qu'on peut pas adapter le modèle? Et voilà la question fondamentale qui se pose. Mais c'est pas dans le détail, et ce qui est dommage peut-être dans le rapport, c'est qu'on aille voir un point de détail. On s'en fiche du détail ici, on n'y est pas. Le détail, c'est pour les techniciens. La question, c'est, faut-il changer la gouvernance du syndicat des copropriétaires? Quand on aura répondu à cette question globale, on s'intéressera à ce qu'on fait dans le détail. Et pour l'instant, on n'a pas répondu à cette question globale, ni le législateur, ni peut-être la doctrine, ni les sociologues. On n'a pas une réponse qui nous permette d'aller dans une direction précise. Et c'est à ça qu'il faut s'intéresser. Et sur ce point-là, qui est général, il faut toujours se souvenir d'une chose. C'est qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Et que la réalité de la gouvernance des copropriétés, des syndicats de copropriétaires, ça dépend de qui il y a à la tête de ce syndicat. Quand le syndic est mauvais, et ça arrive, heureusement, il y a parfois un bon conseil syndical. Et la copropriété est sauvée.
Et des fois l'inverse.
Et parfois, j'allais évidemment le dire. Parfois, il n'y a personne chez les copropriétaires de valable, parce qu'ils ne comprennent rien, parce qu'ils ne paient pas. Pas parce que ce sont des méchantes personnes ou des personnes bêtes.
Qui s'opposent à
ça
tout.
Ça n'est pas du tout ça. Mais parce qu'ils ne sont pas capables d'administrer l'immeuble, parce que ça n'est pas leur sujet, parce que ça n'est pas leur intérêt. Il y a mille raisons pour lesquelles les copropriétaires sont parfois détachés de l'administration de leur immeuble. Et dans ce cas-là, heureusement, il y a parfois un syndic valable qui s'occupe de l'immeuble et qui permet de ne pas le mettre en péril.
Et oui, parce que conseil d'administration, vous faites bien de le rappeler, on a affaire à des particuliers, des profanes, des...
Et qui sont peut-être de formidables personnes qui vont sauver l'immeuble et qui vont faire en sorte que ça fonctionne.
Et dévoués, travailleurs, et bien sûr.
Et on a des conseils syndicaux comme ça, mais heureusement qu'il y a un conseil syndical dans l'immeuble. Donc, c'est aussi le problème peut-être de la rigidité, et ça donne peut-être un point de vue, en tout cas ça laisse transpirer mon point de vue, sur la rigidité du système actuel, parce qu'il ne permet pas tout à fait de s'adapter à cette richesse humaine qu'il y a dans les syndicats de copropriétaires.
Sachant que, bon, on en a parlé la dernière fois, donc on ne va pas revenir dessus, mais la loi Elan pour les immeubles 100% tertiaires, l'article 1er, hein, la loi 65, dit qu'on peut déroger entièrement à... Donc il y a déjà une possibilité.
D'où les multiples atteintes dont je parlais.
Entièrement au statut, au régime de la loi de 65, et on a vu, on en a parlé, que finalement, bah, peu de syndicats avaient adopté un modèle totalement libre sur le modèle d'une société ou d'une ASL. Et que finalement, bon ben, on est quand même tous un peu conservateurs, on n'aime pas trop le changement. Peut-être aussi que la loi 65 d'origine est bien faite, hein, dans cet équilibre imaginé par ces capoulades, hein, etc. Sur ce fameux triangle, hein, l'AG, le conseil syndical et le syndic, et que finalement, ben c'est très bien comme ça et c'est pas la peine d'y toucher. Je rappelle que la loi de 65 va avoir l'année prochaine 60 ans. Hein, et qu'à l'occasion de ces 50 ans, justement, on voulait déjà faire la transition juridique de la copropriété. On nous avait promis la révolution dont vous parlez encore aujourd'hui, Pierre-Edouard, cette révolution qui n'a pas eu lieu. Est-ce une bonne chose ou pas? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, on en est toujours là. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Les As. Voilà, on arrive au terme de notre émission, une heure tout pile. Alexis de Coster, merci. Donc je rappelle que vous êtes responsable directeur, hein, du service administration de biens syndic Crédit Agricole Services Immobiliers. Pierre-Edouard. Pierre-Edouard, avocat au barreau de Paris et de Bordeaux, docteur en droit. Merci. Pierre-Edouard,
merci,
Mathieu Mialaret, merci, directeur de service syndic, administration de biens métiers chez Foncia.
À bientôt.
Et à bientôt, Sabrina Meghetti, merci pour tout, directrice d'agence, responsable d'agence chez Quadral Property. Quadral Property. Merci à vous, bye bye.
Les As de la CoPro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.